remarquerez une chose, c'est que c'est quand même curieux. Quand j'ai su, annonce, proclame le royaume de Dieu, il est toujours entouré par ses douze apôtres. On ne le verra jamais annoncer le royaume de Dieu, comme ça, tout seul. Il est entouré des apôtres, quelquefois des disciples, et puis aussi les femmes. Et quand il n'est pas entouré, hein, si on le voyait comme ça, il proclame, il annonce le royaume de Dieu. Il est forcément entouré, enveloppé comme ça, habillé, pénétré, enfin, je ne sais pas comment dire, pénétrant, hein, il pénètre à notre présence avec. Une famille avec une. Enfin, avec les douze apôtres, quoi, avec cette espèce de cohorte apostolique. Et avant, d'ailleurs, j'ai découvert, grâce à Sainte-Catherine Emmerich, que Jésus, une fois que Saint-Joseph est mort, quoi, et ben les cinq premiers mois, il n'est pas resté à Nazareth. Rester avec Marie, il est allé, il a parcouru comme ça tous les chemins qu'il devait parcourir, les villes, les cités, les synagogues, tout. Et elle explique qu'il a pratiquement été dans tous les villages principaux de Galilée, de Judée, quoi. Cinq mois, il a fait que ça. Il était tout seul cette fois-ci, alors il n'a rien proclamé du tout. Mais il n'a rien proclamé du tout, mais il rendait service. Il y avait dans ce village-là quelqu'un qui était très, 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 très malheureux. Il allait le voir, il leur donnait, dans une autre ville, il allait donner un coup de main à quelqu'un qui terminait sa toiture. Et quand il était passé dans un village, tout le monde sentait qu'il était passé. Mais il ne disait rien. L'annonce du royaume de Dieu, quoi, elle se fait toujours. La parole s'exprime à travers le corps mystique de Jésus. Jésus seul, lui, c'est la bonté, le service concret. Il prend la pioche, il aide la veuve, il prie pour quelqu'un, parce qu'il sait que c'est pas possible pour lui. Enfin, son visage tranquille passe, réconforte les gens. Mais les gens ne savent pas qui il est, ils ne savent pas qui c'est. Ça a duré 5 mois, 153 jours, c'est le fond, quoi, quelque part, hein, le fond. Et il répond de sa bienfaisance, sa bonté, des gestes, des actes, des travaux. Et c'est surtout son visage, je suppose, qui était. Tous ces villages-là savaient que, à cause de la bénédiction qui passait, ça fait penser à Melchisédek. Passé à un endroit, un jour il est passé dans le petit hameau d'Abraham. Tout de suite, Abraham a compris que quelqu'un était passé qui venait du ciel. Même si on n'est pas très doué, on n'a pas besoin de parole pour ça. Simple regard, le geste de gentil, délicat, gratuit, continuellement attentif, je sais pas, délicat, adapté et tout. Il a jeté une semence partout. Tous les villages étaient ouverts, quoi. Par sa présence personnelle, silencieuse, tranquille. Et surtout un visage. Et il ne s'arrêtait pas. Il ne s'est pas arrêté de rendre des services, de consoler. Il n'a pas fait des guérisons très miraculeuses, mais quand même, il a réconforté énormément. Les choses allaient mieux. C'est bien de savoir ça. Que quand Jésus proclame le royaume de Dieu, il y a toujours ses apôtres qui sont là autour de lui. Or, la résurrection et la mort de Jésus, c'est la proclamation du royaume. C'est pour ça que, au pied de la croix, dans la croix, il y a les femmes et il est entouré. Bah, pas beaucoup. À la résurrection. Il est entouré. manifestation de sa résurrection. Ce sera à la fin de l'annonciation du royaume eucharistique de l'amour adapté et miséricordieux. Et la résurrection, il la manifestera ouvertement, enveloppée d'une nuée de gens, d'une nuée d'apôtres, des derniers temps, d'une nuée de justes ressuscités, venus à sa rencontre à travers les airs. Voilà, et il y a entre... Il y a quelque chose de très curieux, quoi, de très frappant, enfin de très émouvant, disons. C'est que Jésus ne proclame rien. Voilà, s'il n'est pas entouré de sa bouche, la doctrine, la révélation de Dieu ne se révèle que si ils sont ensemble. Avec quelques apôtres, c'est l'humanité tout entière qui est là. C'est ceux qui sont à ses pieds, quoi. C'est ceux qui sont dignes de dénouer la courroie de ses sandales. C'est ceux qui vont courir sur le chemin du ciel pour proclamer la bonne nouvelle. Jusque dans la terre, voilà. Et on voit bien ça. Alors pour nous, ça veut dire quelque chose quand même, c'est sûr. Ça veut dire quelque chose. Pour moi, je trouve ça très, 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 très grand, très, très émouvant que pour qu'on puisse rentrer dans la proclamation du royaume eucharistique de Jésus. Il faut qu'on soit une multitude dans son cœur eucharistique pour pouvoir faire que ce royaume soit annoncé au ciel, soit annoncé dans la nature humaine entière. Et c'est ça qui me frappe, moi, de plus en plus. Et par exemple, vous prenez Marie, par exemple, la Sainte Vierge. Le chant que le ciel a proposé qu'on chante tous les jours, c'est « Ave Maria Stella, Dei Mater Alma ». C'est la Vierge Alma. De la Vierge qui engendre Dieu. Dei Mater Alma. La Vierge qui engendre Dieu. Atque Semper Virgo, d'une virginité éternelle. C'est sa virginité qui engendre maternellement Dieu, d'une virginité éternelle. Sumen, c'est Ludave, Gabriel et Soré. Tu reçois et tu assumes. Souvenez-vous de l'eau d'avec Gabriel Zoré. Tu assumes, tu reçois et tu assumes la salutation de la bouche de Gabriel. Félix Dei Porta, tu es la porte de toutes les béatitudes. De Dieu. Et bien, quand on dit ce chant, quoi, à Marie, il faut comprendre que dès lors qu'on prononce ça avec des mots, c'est une proclamation du royaume de Dieu. Donc, quand Marie, elle vit une salutation, un chant, elle ne l'entend pas pour elle-même, elle l'entend pour la nature humaine tout entière. Le fait que la proclamation se fasse comme ça, par la foi, par l'amour qu'on a, un amour qui vient de Dieu. Alors du coup, aussitôt, ce qui est arrivé à Marie se répercute et envahit intégralement la nature humaine tout entière. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Alors, en tout cas, elle, quand elle entend Ave Maria Stella, étoile de la mer, c'est-à-dire la lumière qui resplendit, qui scintille joyeusement sur toutes les profondeurs du temps. Alors, à ce moment-là, Le seul fait que nous le disions fait qu'une détermination lumineuse envahit la nature humaine tout entière, de tout, la nôtre, celle de ceux qui croient, celle de ceux qui ne croient pas. Parce que Marie, quand elle reçoit la proclamation du royaume de Dieu, aussitôt, elle est le poids principal de la nature humaine. Elle l'envahit, elle l'assume, soumène, c'est l'Odavé. C'est pour ça que c'est un très beau chant, c'est une très très belle, c'est une très très belle litanie. Félix et Iporta, tu la portes de toutes les béatitudes de Dieu lui-même. La nature humaine, c'est la porte de toutes les béatitudes humaines. La nature humaine, elle reçoit la salutation de la bouche de l'ange Gabriel. La nature humaine, c'est la virginale. La virginale maternité divine. La virginale engendrement de Dieu. Dans une virginité surnaturelle, perpétuelle et éternelle. La nature humaine, c'est tout ça. Fundanos in pace. Tu nous enracines et tu nous fondes dans le nom et la présence des sources de l'humanité tout entière. Vous voyez, on voit bien, je ne sais pas si vous voyez, alors quand vous faites un chant, quand on fait un chant, quand on fait un Ave Maria, quand on fait un Notre Père, c'est pareil. Mais en tout cas, ces chants sont beaux. Tout chant est une proclamation. Tout chant liturgique est une proclamation du royaume de Dieu. Et elle se fait avec la multitude. Et il n'y a qu'une seule nature. C'est ça qui est beau, vous voyez. C'est ça qui est beau. C'est à cause de ça, vous voyez, que nous avons vraiment une seule nature avec Marie. Eh bien, on a besoin pour des milliards et des milliards de personnes qui sont intégralement, universellement cette nature. On n'a besoin que d'une seule pour être l'absolution éternelle qui imbibe la nature humaine tout entière. On a besoin de deux. Pourquoi ? Parce que les hommes, les femmes et les enfants ont la même nature, une unique nature, une égale dignité. Et la dignité s'empare par le sommet, toujours. Et se répand dans tous les membres. Et saint Augustin, saint Thomas d'Aquin, se posait la question toujours, chez nous, le père Marido, nos formateurs nous disaient, voyez, regardez, on a une dignité extraordinaire, c'est l'intellect d'agent. On allait dire, il y a quelque chose de... C'est pas irritant, c'est pas ça. Il y a quelque chose de troublant dans ce fait que des grands, grands saints n'ont pas cessé de répéter que la plus grande dignité de la nature humaine, c'est cette lumière qui permet, à travers le corps, de contempler indépendamment du corps et pour rentrer dans l'invisible, en voyant l'invisible. Cette vie contemplative qui est en nous, et ils se sont toujours posé la question. Je vois saint Augustin, mais saint Thomas aussi. C'est un livre que j'aurais beaucoup voulu lire, que je veux lire, ça fait 20 ans que je veux le lire. J'ai toujours pas réussi encore à le lire. Vous avez vu quoi, une page, vous avez, il y a 300 pages, mais... Et cet intellect agent, il se pose vraiment la question, est-ce que c'est pas le même lumière pour tous les hommes? Est-ce que notre intelligence, dans sa pointe, est-ce que c'est pas une seule substance pour tous les hommes? Ou est-ce que nous avons chacun une intelligence qui nous est propre dans la vie contemplative? Il se pose la question, en tout cas, que ce soit saint Augustin, saint Thomas d'Aquin. C'est comme si notre vie contemplative, si elle cherche la vérité, s'engloutit dans la vérité tout entière, alors elle devient elle-même, elle rayonne, et bien ce rayonnement a quelque part dans sa puissance, dans sa capacité de pénétrer dans la lumière. Une seule, non seulement une seule unique nature, mais en plus, une seule individuation. Ce qui explique d'ailleurs que Et le royaume de Dieu, parce que Jésus veut proclamer le royaume de Dieu, il le proclame à tout ce qui est le moins digne dans la nature humaine. Alors il est accompagné. Quand elle reçoit dans cette lumière de la volonté, de la procession, de la mission invisible du Verbe de Dieu dans le principe, annoncé par l'immensité gigantesque, la puissance de lumière de l'ange Gabriel qui donne tout, elle transforme la nature humaine, mutans et phénomène, elle change complètement la nature humaine, émane, qui est sortie d'Ève. Motans et phénomène. Elle est une mutation de notre nature. Tout ce que Marie a vécu, tout ce que Jésus a vécu, tout ce que les deux ont vécu, ont complètement bouleversé, transformé de l'intérieur toutes les capacités de notre nature. Et le royaume de Dieu est là pour que nous puissions l'entendre. Ils sont là et tout ce qu'ils ont vient imbiber notre âme et notre chair et notre vie et notre nature entière. Et nous sommes les enfants du royaume. Et de plus en plus, avec la grâce, tout ce que nous faisons, c'est la nature humaine entière qu'il fait. Ben, je m'excuse, mais je trouve ça très bien. Je trouve ça très beau, je trouve ça très grand. Parce que vous voyez, par comparaison, lorsqu'un ange fait quelque chose d'admirable, ça ne se répercute pas sur les autres anges. Pourquoi ? Parce que d'un ange à un autre ange, il y a une différence d'espèce. Tandis que d'un homme à un autre homme, il n'y a pas de différence d'espèce. Nous sommes la même nature. C'est la différence qu'il y a un ange et un autre ange. Substantielle qui est sa propre espèce. Regardez la différence qu'il y a entre un grain de cendre, par exemple, et un aigle qui vole au zénith. C'est la différence qu'il y a d'un ange à un autre. Il y a une différence d'espèce d'un ange à un autre. Et Dieu sait qu'il y en a des myriades d'anges. Donc quand un ange excelle dans une splendeur qui est sa propre dignité, elle ne se communique pas aux myriades d'autres anges. C'est pour ça qu'ils ont besoin de la proclamation du royaume de Dieu. Et que quand nous, on les convoque chacun et tous en même temps. Il y a quelque chose quand même dans cette proclamation du royaume, de ce fait que Jésus soit toujours accompagné. Dès qu'il s'agit de la proclamation explicite, quand il revient sur les nuées, le Fils de l'homme, lorsque Dieu assume toute la nature humaine, qu'il la rejoint dans la proclamation finale, il devient le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, c'est le Jésus vivant et entier dans l'accomplissement. À un moment donné de l'histoire, de l'histoire du monde, quoi. Dans l'histoire, c'est comme s'il s'arrêtait. Et la révélation nous indique ça. Il nous dit, voilà, le temps s'arrête. Hein. Le temps des nations, c'est la fin du temps. On dit bien, la fin des temps. Hein. La fin des temps, c'est pas la fin du monde. Hein. La fin des temps, c'est un moment à partir duquel, le méchaume s'installant, il n'y a plus de ressources suffisantes dans la nature humaine pour acquiescer dans la puissance des dons de Dieu, pour acquiescer à un royaume plus grand d'amour, de lumière, à une transformation plus grande. Pourquoi ? Parce que il y a quelque chose qui fait que les sources de la croissance, cette espèce de paternité glorieuse incarnée qui fait croître sans arrêt jusqu'à l'accomplissement, s'arrête. Et ça s'appelle le Shikutsi, mais soi-même. Et à partir du moment où il y a Shikutsi, mes chers, C'est de la croissance, elle vient d'une venue descendante de la nature humaine vers nous. Et plus nous vivons, nous, de cette nature humaine descendante du royaume de Dieu vers nous, le Fils de l'homme venant sur les nez, plus effectivement nous échappons à cette espèce de blocage de la fin des temps. Il y a un mode différent. Il y a un mode différent. Et du coup, il y a une nécessité quelque part pour la nature humaine, lorsque on est dans la fin des temps, à désirer que les temps s'ouvrent. En désirant que les temps s'ouvrent, on ne désire pas que les temps s'ouvrent comme ça pour que les temps s'ouvrent, mais on désire que les temps s'ouvrent pour échapper au monde ancien, pour échapper. Et puis pour nous engloutir dans l'abîme des temps qui s'ouvrent. Et en s'engloutissant dans l'abîme des temps qui s'ouvrent, voir le filet qui se déchire et nous laisser assumer Summans illud ave. Nous laisser assumer dans les noces de l'agneau. Et les noces de l'agneau, c'est ce qui fait l'unité de nature de Dieu. L'unité de nature de Dieu qui vient pour proclamer la bonne nouvelle avec tous les élus. À partir du moment où les temps vont s'ouvrir, il y a une exigence d'un mode nouveau. C'est toujours la même chose. C'est toujours la foi. C'est toujours l'espérance. C'est toujours la charité, d'accord ? Mais c'est avec la nature humaine, substantiellement indivisible. Et cette nature humaine substantiellement indivisible, elle a sa substance et son acte dans ce qu'il y a de plus sublime en elle. Vous voyez, par exemple, vous avez une vision de Dieu, une vision, par exemple, intellective, surnaturelle, parfaite. Et c'est pas du tout une vision imaginaire, une apparition. Vous voyez un soleil qui, dans un cœur qui brûle. Voilà, je suis par exemple. Pas du tout. Ça, c'est une apparition imaginative. Ça. Mais si vous avez une apparition intellective, purement spirituelle, et purement surnaturelle, et purement divine, vous ne pouvez pas la décrire. C'est impossible. Pourtant, vous l'avez vu. Et c'est dans votre nature humaine que vous avez reçu ça. Et au moment où vous le recevez, je peux vous dire, vous lirez Saint-Jean de la Croix si vous voulez, si vous ne voulez pas me croire. Vous êtes revêtu entièrement d'une dignité extraordinaire. L'acte, parfaite contemplation, l'assimilation, fait que pratiquement tout, le moindre poil, le bout de l'ongle, tout ça, reçoit la même dignité que ce que vous vivez dans votre sommet. Ce que Marie a vécu nous appartient. C'est ça la nature humaine. Ce que Jésus a vécu nous appartient. Quand il proclame le royaume de Dieu, il est toujours accompagné d'une nuée de gens qui font corps avec lui. Et si ce que Jésus a vécu dans sa nature humaine nous appartient, c'est parce que nous avons une seule nature. Lorsqu'on fait un acte de bonté, hein, c'est mon enfant, je vais le consoler, je vais faire œuvre de patience, je vais lui dire, oh, je vais déposer en lui. Très grande force. Je vais déposer en lui le feu de mon cœur sans rien lui dire. Lorsque j'ai une moitié sponsale, par exemple, je vais brûler à l'infini mon cœur sponsale et le déposer en lui et y disparaître, ne serait-ce que de manière fugitive en faisant la vaisselle. je vais, à chaque fois que je fais un acte de bonté, un acte de joie, un acte de bénédiction incarnée, palpitante, souveraine, bienveillante, patiente, joyeuse, amoureuse. À chaque fois, je le fais avec la brûlure parfaite de l'accomplissement du mariage spirituel en Dieu. C'est fulgurant, si vous voulez, je ne force pas pour ça. Mais chaque fois que je le fais, c'est la nature humaine tout entière. C'est la nature humaine tout entière. Je ne m'en rends peut-être pas compte sur le moment, mais petit à petit, on finit par s'en rendre compte dans le moindre de nos actes. Dès lors que on a communié, dès lors que nous sommes heureux de vivre ensemble du baptême, dès lors que nous sommes dans la joie, l'allégresse, d'être inséparés de l'Immaculée Conception, dès lors que nous sommes les membres vivants, Jésus vivant, dès lors que nous avons communié dans l'action de grâce, pour que l'infiniment petit, la communion reçue, soit emportée à travers tout, et emporte tout dans cet apportement, dans l'individualité de Dieu, pour qu'il y ait précisément cette expression du royaume de Dieu, sans mesure et sans fin. À chaque fois, c'est la nature humaine tout entière qui est ennoblie par le tout petit acte de brûlure surnaturelle du cœur que je dépose avec une joie profonde, une joie sourde. La communication, c'est la nature humaine tout entière. Lorsque, par exemple, je fais oraison, là, c'est plus facile, parce que quand on fait oraison, comprenez que c'est beaucoup plus facile. Parce que ça, c'est sûr, on est tellement assumé dans l'oraison, on disparaît en Dieu, et c'est de la nature humaine tout entière qui fait oraison à travers nous. Ça, on ne peut pas ne pas le voir. Et pour la messe en communion, c'est la nature humaine tout entière qui reçoit la communion. C'est d'ailleurs pour ça qu'on peut les convoquer, qu'ils sont dans notre cœur. Ils ne sont pas seulement spirituellement ou moralement dans notre cœur, ils sont de manière étincelante dans notre cœur et autour de nous. Dans la sponsalité, par exemple, ma moitié sponsale est dans mon cœur et en même temps, elle étincelle à côté de moi. Elle m'enveloppe. Elle est à la fois à côté de moi, face à face. En même temps, elle est étincelle, toute brûlante, en moi. D'ailleurs, je m'y efface dans l'unité. La nature humaine est véritablement une nature humaine parfaite du point de vue de l'indivisibilité. Et du coup, l'indivisibilité de la nature humaine et l'indivisibilité de Dieu sont faits pour se fondre l'une dans l'autre. Et c'est ça la proclamation du royaume de Dieu. C'est une proclamation qui ridiculise Lucifer. Qui ridiculise complètement Lucifer parce que c'est tout simple. Et Lucifer qui se gonfle de manière énorme. Ça disparaît de la terre. Alors, s'il est ressuscité, c'est que nous sommes ressuscités aussi. Et s'il est ressuscité, c'est que c'est notre résurrection. Et s'il n'est pas ressuscité, c'est que nous ne ressuscitons pas. Mais s'il est mort sur la croix, c'est que son union hypostatique s'est déchirée. Et si son union hypostatique s'est déchirée, c'est qu'elle nous appartient. Ce dévoilement nous appartient. Et elle rentre dans notre chair, dans notre cœur, dans notre âme, dans notre vision, dans notre splendeur, notre béatitude. plus en plus. On va voir que quand on s'approche de la fin des temps, c'est-à-dire maintenant, je ne crois pas que ce soit une autre époque, hein, au fur et à mesure, on se rend compte que le moindre acte que nous allons poser, de la plus grande dignité, la plus grande simplicité et la petitesse la plus immense qui soit, elle assume, et elle se vit, se répand, elle appartient et elle possède la nature humaine tout entière. Et de plus en plus, on va vivre ça. Ce qui est chouette. Ce qui est très très agréable en fait. Mais si vous voulez être aidé pour savoir comment on va acquérir cette sainteté, cet habitus, quoi, cette qualité de la nature humaine, cette qualité-là, eh bien je vous dis, prenez le chant Ave Maris Stella. Évidemment, vous me direz ça en latin. Mais je trouve qu'en latin c'est plus facile. Sumen silo dave Gabriel sore fundanos in pace mutans phenomen. La présence de tous les vivants issus de Ève est transformée parce que tu assumes la salutation de l'ange et du coup la nature humaine d'Ève sortie d'Ève devient les portes de la béatitude de Dieu. Notre nature humaine, c'est une porte d'entrée où les gens sortent, rentrent, le flux, le reflux. Et c'est notre nature humaine. Solve vinclareis. Aussitôt, il y a la dissolution de tous les liens d'esclavage, des esclaves, dans notre nature humaine. Profère le même cessis. Aussitôt, la lumière est dans tous les aveuglements. Pour toute la nature humaine. Malanas trapelle. Tout le mal en nous est repoussé en dehors. Bona kunta possède tous les trésors sans limite, bien assez débordants. S'accumule en nous. Alors, mon strat, et c'est ma trêve, soumat, pâte princesse, il faut que nous montrions à la névère tout entier que nous sommes la mère virginale, dans une virginité si naturelle de Dieu et de la divinité. Et que nous assumons tout le cri de l'espérance de l'univers entier. Soumat, pâte princesse, dans la nature humaine immaculée qui est la nôtre. Et surtout le cri de la prière, qui pronobis natus, qui est né pour nous. Nous sommes l'absorption de la prière de celui qui est né pour nous. C'est notre nature humaine, ça. C'est, vous savez, je vous assure que quand on connaît une prière par cœur en latin, je crois que c'est en latin, ça a un effet sur le monde angélique déchu. C'est pour ça que c'est beaucoup. Enfin, en langue vernaculaire, ça n'a pas du tout la même. Mais c'est un fait que c'est la langue de l'Église, c'est la langue universelle. Quand c'est en latin, et qu'on y rentre, la nature humaine se déploie. Et notre nature est identifiée à celle qui est la nôtre. Alors ça prend une très 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 grande force. Et on comprend très très bien que quand on dit l'Ave Maris Stella, on est tellement englouti dans les 42 révélations qui sont inscrites dans ce chant que il n'y a pas la moindre possibilité que quoi que ce soit puisse blesser notre nature. Mais ça, c'est un côté, j'allais dire, de protection extérieure, vous voyez, n'a pas de grande importance. Ce qui compte, bien sûr, c'est que nous entendions, nous recevions celui qui a revêtu notre nature pour que ce soit la nôtre, soit la de princesse, qui pronobis natus tollites et tous, virgo singularis, inter omnes mitis. Alors on est rempli de la saveur, de la douceur délicieuse de l'onction messianique qui se répand en Marie et elle dans la saveur messianique de l'union hypostatique humaine de Jésus et nous aussi. Il y a une sponsalité. Il y a une sponsalité dans la douceur, dans l'adaptation, dans l'huile. Et au-delà de toutes les déchéances de la nature elle-même, où la nature humaine a pu tromper. Nos culpis salutes metes fact gestos. Alors il y a une espèce d'adaptation systématique, profonde, substantielle, actuelle, débordante en toutes choses. Il y a quelque chose qui est pénible, mais si on s'adapte. On s'adapte. Mites vague. On fait que la chose s'est adoucie, s'est adaptée. À cause de la pureté. Et tout ça, pourquoi? C'est pour voir dans la nature humaine qui est en nous, Jésus. Et qu'ensemble, nous puissions nous réjouir des noces de l'agneau. Vous savez, le parcours de l'Ave Maria Stella. Mais vous voyez bien que si vous chantez l'Ave Maria Stella comme ça, en disant, voilà, je m'adresse à Marie, là, qui est là, et moi, je suis ici, Ave Maria Stella. Oui. C'est pas le royaume de Dieu, ça. Mais si vous dites Ave Maria Stella, que vous êtes dans la même nature qu'elle et vous recevez avec elle le Ave Maria Stella, alors à ce moment-là, ça y est, vous êtes rentré dans le royaume de Dieu. Jésus proclame le royaume de Dieu inséparablement de ceux qui sont une nuit autour d'eux avec les femmes et la campagne. C'est impressionnant quand même, je trouve. Et alors, quand on sera tellement habitué à ça, et c'est sûr que l'ouverture du cinquième sceau de l'Apocalypse va nous projeter d'une manière époustouflante dans cette proclamation quoi, hein, de la fin des temps. Alors ce sera toute la grâce des enfants, des élus, de se laisser assumer et emporter et identifier à Jésus à la droite du Père, identifier à Dieu lui-même, à Dieu qui revient. Saint Joseph qui revient, c'est pour ça que l'Apocalypse, c'est très important. Parce que l'Apocalypse est une révélation qui nous indique que, à partir du cinquième jour de l'Apocalypse, le chemin de croix est descendant à partir de la fin. Et nous appartenons à la nature qui est assumée et qui revient à partir de la fin, où c'est Dieu qui ramasse toute la nature humaine pour descendre jusqu'à nous, jusque dans le fond. Des racines primordiales de la vie, de l'existence et de la création de toutes choses. Et ça appartient aussi, ça, à la nature humaine. De pouvoir revenir et descendre. Donc c'est le flux et c'est le reflux qui se rencontrent. Dans le baiser du véritable amour, parce que le baiser du véritable amour appartient de soi à la nature humaine. On est créé d'une manière sponsale. Et on existe dans une mission et une indispensable. Ce baiser du véritable amour est essentiel dans la proclamation du royaume de Dieu pour la nature humaine qui est la nôtre. Donc priorité absolue à la mise en place de la mission surnaturelle sponsale en nous, dans nos prières. Priorité absolue. Ça me plaît, ça, moi. Alors, je vous rappelle, si vous n'avez pas la clé, c'est la sponsorité, Jean-Paul Dieu l'a dit, la clé, c'est, si vous voulez vivre de la vie sponsale, c'est l'au-delà de l'unité des deux, hein, toujours se rappeler ça. C'est l'au-delà de l'unité des deux. Idem une numéro dans l'au-delà de l'unité des deux. Toujours. C'est pas ce que je vis, c'est pas ce que cette personne m'a apporté dans sa plus grande splendeur, ses immenses profondeurs. Maintenant, c'est l'au-delà de l'unité des deux. C'est à partir de ce qui est de l'au-delà de l'unité des deux quand. Non, c'est une seule nature, et c'est ce qui en émane, hein, dans le calice, hein, la pénétration, la croissance et la surmultiplication éternelle. L'au-delà de l'unité des deux, on est toujours dans l'au-delà de l'unité des deux, on est toujours au-delà, on échappe à toutes les séquelles du péché originel, l'au-delà de l'unité. J'essaie de me réconcilier avec quelqu'un que j'aime pas, qui est mon ennemi. Hein, ça ne doit pas être très commode, quelquefois, de se réconcilier avec quelqu'un qui vraiment m'a fait beaucoup de mal avant. Hein. L'au-delà de l'unité des deux. Il est pardonné dans sa nature humaine. Moi aussi, je suis pardonné dans ma nature humaine. Eh bien, c'est ni l'un ni l'autre. C'est sponsal, le pardon. C'est l'au-delà de l'unité des deux. J'ai une impatience vis-à-vis de quelqu'un qui est très proche de moi. Je suis très impatient, très exaspéré. C'est parce que je ne vis pas dans la nature sponsale de mon cœur, de ma chair, de mon sang et du temps que je passe avec lui. Alors du coup, c'est l'exaspération. Mais si je vis l'au-delà de l'unité des deux, tout va bien. Je dépose, du coup, en lui la paix. Du moins, c'est pas moi qui la dépose. Ça dépose automatiquement. Vous comprenez? Mais si c'est moi qui vais faire des efforts parce que je suis là, hein, je suis costaud, j'ai un bon cateau, je suis la matrone, je sais pas comment dire, je suis... à un moment donné, ça s'épuise.
Oui, mais s'il n'est pas d'accord, s'il n'est pas, pas du tout là-dedans, s'il n'est pas. Ça n'a rien.
C'est invisible.
Ah oui.
C'est intérieur. C'est tout intérieur. C'est de l'au-delà. J'échappe à la morsure du péché originel et à ses séquelles en vivant dans l'innocence divine primordiale et béatifiante retrouvée, l'au-delà de l'unité des deux. C'est tout. C'est tout simple. Avoir confiance.